sur 95,3.
Pendant la période post-conflit dans les années 2000, plusieurs mouvements opposés s'affrontaient dans certains milieux de la province du Sud-Kivu. Certaines sources rapportent que tout est parti des discours de certains hommes, leaders des mouvements étudiantins, des leaders politiques, religieux ou encore des leaders charismatiques de certaines tribus promettant un avenir meilleur dans un plus bref délai selon leurs propos. Nous avons Charlotte Ngongi-Selemani en ligne. Bonjour Charlotte.
Bonjour JR. L'exemple concret est la crise qui a sévi dans les années 2000 dans les institutions universitaires où on a remarqué les clivages entre étudiants des différentes tribus. Selon le corps professoral de ces universités, ceci est dû aux conditions difficiles dans les milieux universitaires. Il dit qu'au moment de l'intégration des nouveaux étudiants en quête d'un logement, de la nourriture, que sais-je encore. Suite à cela, ils finissent par rejoindre en fin de compte les personnes qui sont de leur tribu par recommandation de telle ou telle autre personne du milieu originaire, dont la famille ou les connaissances. Ces étudiants disent que ceci leur donne un sentiment de soulagement car chaque individu se sent protégé par les siens. D'où la naissance du slogan de la petite famille qui regroupe les étudiants de la communauté Bashi et la grande famille qui regroupe les Ouariga et les étudiants des autres tribus ainsi que ceux d'autres provinces JR.
Voilà, alors qu'entraîne cet état d'esprit et quelles sont les conséquences de ces clivages?
Comme conséquence, selon le corps professoral, cette situation est vite récupérée par des acteurs politiques qui en font leur marché. Ils disent que ces acteurs politiques les utilisent pour leur influence à la recherche de leadership dans les campus et ils responsabilisent les étudiants de telle tribu d'une origine quelconque en leur promettant de payer leurs études, qu'ils vont les aider à la survie et cela sur base des groupes ethniques. Et selon toujours la même source, certains dirigeants des établissements autant du RCD ont utilisé ces groupuscules pour asseoir leurs assises politiques et pour justifier leur raison d'être auprès des instances politiques. Écoutons Jean Chamamba, chef des travaux à l'Institut supérieur de développement rural.
Ces groupes de grandes familles, de petites familles, se sont développés au moment du RCD, au moment où certaines personnes politiques dirigeant les établissements supérieurs à ce moment-là n'avaient pas le souci de la formation de la jeunesse pour une jeunesse qui peut se mettre au-delà des sentiments ethniques et ne voir que le développement de la province, et ils ont utilisé ça comme base pour asseoir leurs influences politiques. Et même plus tard, quand il y a eu des élections, ils ont recouru à ce même groupe pour faire leur campagne électorat, alors que c'était interdit de faire cette campagne dans les campus.
Voilà, alors Charlotte, et le corps professoral dit quoi?
Oui, le corps professoral dit que cette influence se faisait fortement remarquer pendant la rébellion. Certaines autorités académiques ont été sanctionnées par des étudiants des tribus opposées. Les étudiants pouvaient ainsi jouer des oppositions ethniques pour obtenir ce qu'ils voulaient. Écoutons Joachim Rouhamia, chercheur au Centre d'études et de recherches pour la promotion rurale à l'Institut supérieur de développement rural.
Je me rappelle qu'à l'IEDER, il y a eu enlèvement d'un directeur général pour une histoire de générateur. Les étudiants l'ont remis au gouverneur et ils ont dit « ramenez-nous un autre directeur général demain ». Quand on a fait l'analyse, on a trouvé que c'était les originaires de l'Est qui avaient été encouragés par certains enseignants. Le même soir, les étudiants des autres provinces se sont réunis autour de l'heure pour voir comment il fallait récupérer la situation pour que celui-là qui a été enlevé soit remplacé par quelqu'un d'autre de leur obédience. C'est là au début des années 1999-2000. Là maintenant, c'était des récupérations politiciennes.
Alors, on peut savoir, Charlotte, à quel moment de l'année académique ce trafic d'influence se manifeste-t-il concrètement?
Selon les étudiants, c'est souvent quand ils se retrouvent dans une situation difficile ou même quand ils veulent briguer un poste au niveau de l'université. Par exemple, lors des élections des porte-parole au sein des universités et pour avoir tel ou tel autre avantage au campus.
Quelles en sont alors les conséquences? Parce que là, j'imagine que parmi les étudiants, il y a toujours des conséquences.
Les conséquences ne peuvent qu'être néfastes, JR, dans la plupart des temps, comme nous le dit le chercheur Joachim Rouhamia.
des tensions permanentes. Les gens pouvaient dormir sans savoir comment on va se réveiller. Des réunions se multipliaient avec un seul objectif, l'autodéfense. Les autorités vivaient dans une situation d'agression permanente. Les instituts supérieurs, aujourd'hui, regorgent un grand nombre de personnes issues de l'armée, des groupes armés qui ont opéré à l'Est pendant la rébellion. Maintenant, ils sont devenus étudiants. Nous savons tous quel comportement peuvent adopter un groupe comme celui-là. Nous avons dans notre institut à peu près 400 étudiants démobilisés de l'armée.
Mais il y a des coalitions, j'imagine, des coalitions des jeunes qui commencent à voir le jour. Là, nous citons la coalition des jeunes de la société civile et les jeunes de Minembwe. Et selon nos sources, voulez-vous nous donner l'historique de cette coalition, Charlotte?
Cette histoire qui date des événements de triste mémoire au mois de février 2004, à l'époque où le général Niabi Oloa, comme commandant de la 10e région militaire, a été attaqué par son adjoint, le colonel Jules Moutegoussi. Alors que selon les jeunes du site Kivu, le général Niabi Oloa incarnait la réunification du pays au niveau de la province du Sud Kivu. Écoutons Pierre Kabeza, délégué des jeunes de la société civile Sud Kivu.
Niabi Oloa, c'était un général issu de la communauté Bashi et qui est le général Moutegoussi. Il est de la communauté Banyamulenge. Les gens étaient très fâchés et à ce moment-là, une méfiance est née entre le jeune Banyamulenge, parce que d'autres jeunes ont pensé que c'est la jeunesse Banyamulenge qui a soutenu Moutegoussi. La méfiance a pris une grande portée entre les jeunes Banyamulenge et les jeunes des autres ethnies ou communautés. On a vu à cette période-là les jeunes de tous côtés se jeter des pierres, se bagarrer, ne pas s'accepter mutuellement dans certaines écoles.
Quelle est alors l'évolution, Charlotte, de cette situation après plusieurs embûches? Est-ce que on peut savoir s'il y a eu évolution après de nombreuses guerres qui ont sévi le Sud Kivu?
Là, je vous propose encore d'écouter un Pierre Kabeza.
Nous avons juste eu d'ailleurs rencontré nos amis jeunes Banyamulenge qui étaient en exil à Kampala. Et là, pendant une semaine, nous avons d'abord discuté sur ce qui nous oppose. Nous avons trouvé que nos divergences ethniques pouvaient se constituer une richesse. Et c'est de là que nous nous sommes dit, voilà, essayons de voir s'il y a moyen de faire des actions d'ensemble, notamment des travaux communautaires pour le développement, l'assainissement, les présentations culturelles, folkloriques, des pièces théâtrales, commencer à donner un nouveau message à la population. C'est dans ce cadre-là que, quelques mois plus tard, nous sommes décidés d'aller à Minembwe raconter le jeu de Minembwe.
Voilà, Charlotte, vous avez autre chose à ajouter?
Oui, JR a noté qu'à ce jour, selon les leaders de la coalition des jeunes de la société civile et ceux de Minembwe, ces jeunes ont compris que l'intérêt de la nation prime d'abord. Ils promettent de réaliser des projets, des actions de développement communautaire ensemble. Les jeunes de la société civile disent avoir mis en place des radios communautaires, des clubs d'écoute, en laissant à Minembwe des postes radio grâce auxquels les jeunes des hauts plateaux pourront suivre ce qui se passerait ailleurs, toujours pour l'intérêt de la nation.
Pour l'intérêt de la nation, nous avons notre invité qui est d'ailleurs dans ce studio, François Elika, analyste politique, pourrait nous éclairer là-dessus. Merci Charlotte et à la prochaine.
Merci JR, merci à nos auditeurs, à la prochaine.
François Elika, vous êtes analyste politique, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'un individu peut-il être protégé par ses siens?
Oui, il peut être protégé par les siens. C'est dans la communauté, au sein du groupe que chacun de nous pense trouver la première sécurité personnelle. Et c'est dans ce groupe que nous pensons aussi trouver des réponses aux préoccupations que nous rencontrons ou que nous ressentons. Donc, un individu peut être protégé, c'est dans ce groupe-là qu'il trouve la première sécurité.
Alors, certains leaders utilisent ça comme un cheval de bataille dans leurs propos pour quelconque intérêt. Est-ce que c'est une bonne manière de faire?
Bon, il faut dire que les leaders émergent lorsqu'il y a des situations exceptionnelles. En tout cas, le phénomène de leadership est un phénomène qui est lié à l'émergence de problèmes, des problèmes auxquels nous recherchons des solutions. Alors, il y a des gens qui se présentent à nous comme ceux pouvant nous proposer des solutions. Et généralement, ces personnes exploitent nos sentiments, nos considérations affectives. Parce que lorsque le problème surgit, nous avons peur et nous pensons trouver un refuge. C'est dans le groupe que nous trouvons les refuges. Malheureusement, dans ce groupe, existent des personnes qui pensent nous proposer des solutions, bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, lorsque ces solutions sont mauvaises, le leadership qui se construit est un leadership négatif. Et celui-là donne l'impression de nous prendre en charge et donc de nous accompagner dans la recherche de ces solutions. Et nous, dans notre peur, dans le sentiment de peur, dans l'anxiété que nous avons éprouvée suite à ce problème, nous pensons qu'en allant vers les autres, nous allons trouver la solution et ensemble, nous allons gérer notre situation. Et de là surgit tout ce processus de manipulation. C'est lui qui pense nous proposer la solution. Nous devenons pratiquement à son écoute de façon aveugle et nous commençons à suivre tout ce qu'il nous propose.
Mais ça a toujours été difficile de reconnaître un discours séparatiste.
Ce n'est pas difficile si les citoyens s'organisent de façon à accéder à l'information. Ça pose de problèmes lorsque nous pensons que la seule source d'information, c'est la bouche du leader. Et cette fois-là, nous nous privons d'autant de moyens, d'autant de possibilités d'accéder à l'information, une information plurielle et complexe qui nous permet finalement de juger ce que nous dit ou nous propose les leaders et d'aller même au-delà pour nous rendre compte que parce que ce n'est pas la seule source d'information et donc, visiblement, l'information qu'il nous propose n'est pas la seule qui soit vraie. Nous l'avons vécu. On l'a vu même dans les milieux universitaires pour revenir au reportage.
Oui, à la conférence qu'on venait de faire.
Il y a un phénomène dans les milieux universitaires que l'on appelle les codes culturellement transmissibles. Généralement, les jeunes étudiants qui arrivent, on leur dit, écoutez, ici, si vous voulez réussir, il faut d'abord identifier les enseignants de chez vous. Ils pensent qu'en identifiant les enseignants de chez eux, lesquels, en fait, ont besoin d'un tel groupe pour affermir leur influence au sein de l'institution. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'une telle influence dans un milieu académique ou scientifique. Et ainsi, on leur fait croire que pour réussir,
il faut appartenir à une coterie.
Il faut appartenir à une coterie. Et les enseignants, lorsque les étudiants, pendant la période de la session, les enseignants s'organisent pour défendre chacun de ces étudiants et ainsi eux intériorisent ces étudiants, intériorisent que les meilleurs refuges, la meilleure sécurité, c'est celle qui passe par ceux qui sont avec nous, qui sont en fait issus de nos tribus. Mais malheureusement, les enseignants en profitent pour transmettre aux étudiants des schèmes de valeurs, des types de discours qui en fait ne sont pas des discours d'inclusion sociale, ce sont des discours d'exclusion parce qu'on leur dit les autres sont mauvais, ils sont contre votre ascension, ils sont contre votre réussite académique, c'est nous qui sommes bons et la manipulation elle est là avec le danger que nous puissions nous désolidariser des autres et donc développer un point de vue extrémiste, donc de comportement de violence parce que finalement la paix cette fois-là elle devient absente de nos préoccupations.
Une question de curiosité, est-ce qu'on peut établir un lien entre l'insécurité qui prévaut à l'Est, parce que là vous venez de donner l'exemple de l'université de l'Est, et les violences intercommunautaires dans cette partie du pays et ailleurs en République démocratique du Congo?
Oui, non, pas seulement à l'Est, partout ailleurs. Hein, on peut. L'insécurité est en liaison totale avec les violences intercommunautaires parce que, en fait, ce sont des groupes, des individus qui pensent que les uns nous causent du tort et les autres pensent que la base de notre malheur, c'est pas le problème, mais c'est plutôt eux. Alors, dès l'instant où on commence à s'écarter du problème en soi comme cause ou comme obstacle à notre existence, on commence à le personnaliser, c'est-à-dire à chercher des boucs émissaires, à identifier des personnes. Nous nous écartons du vrai chemin et nous nous rendons compte que nous allons développer des types de violences qui vont finalement se perpétuer et donc, au lieu que l'ensemble du groupe soit protégé, même ceux qui pensaient être en position de force deviennent vulnérables. Ainsi, dans ce groupe, l'insécurité avale tout le monde. Nous avons vu, par exemple, dans le Katanga, lorsque la situation, c'est vraiment la situation d'épuration ethnique émerge, lorsque l'économie devient pratiquement déstructurée et sinistrée, les conditions sociales sont tellement difficiles qu'en ce moment-là émerge un leader qui avait besoin du pouvoir, qui avait besoin d'un repositionnement. En tout cas pour un compte personnel, qui dit aux gens, écoutez, la cause de votre malheur, c'est la présence du groupe ethnique tel. Et les gens se sont pris à ce groupe jusqu'au moment où finalement il y a eu des massacres contre ce groupe-là. Et finalement, on s'est rendu compte que la situation d'insécurité qui s'est créée a été prise en charge par toutes ces violences intercommunautaire, donc des violences entre les Katangais et les Katangais.
Oui, alors il semblerait que les adeptes du groupe croient plus facilement à l'idéologie destructrice qu'à l'idéologie constructive. Comment expliquez-vous cela? Si on peut prendre le cas du Katanga et le dernier cas des universités.
Oui, parce que généralement, nous sommes psychologiquement vulnérables chaque fois que nous sommes affectés par un problème. Nous pensons cette fois-là que ce qui est important pour nous, c'est de trouver la solution au problème. Alors c'est lui qui vient nous manipuler en se présentant devant nous comme un messie. Nous croyons très facilement ce qu'il nous propose, compte tenu de notre situation de vulnérabilité et même compte tenu de notre situation de fragilité morale. C'est pourquoi pour combattre en fait ce type de discours, il faut un grand courage moral. Il faut un courage extrêmement
important. Au sein du groupe,
d'ailleurs. Au sein du groupe, bien entendu, ce ne sont pas des actes isolés, mais bien entendu, l'individu ici a un rôle très important à jouer. C'est que quand le problème nous affecte et que nous sommes vulnérables, nous devenons un son de manipulation. Nous devenons la proie facile.
On peut facilement tout gober, on peut les inoculer.
Très facilement, surtout si ce groupe est organisé de sorte que l'information ne circule pas, que les débats n'existent pas et que finalement on ne puisse pas avoir la possibilité.
Alors on va suivre la conclusion que nous propose Marcel Tankou et puis on revient à vous, François Élie.
Lorsque nous vivons des difficultés vitales, c'est-à-dire qui menacent notre vie, comme l'insécurité, les déplacements ou les conflits terriens, il est normal d'avoir besoin de se rapprocher de ceux qui partagent les mêmes problèmes que nous. En groupe, nous nous sentons connectés et plus forts. Et nous avons moins peur. L'union fait la force. Ensemble, nous cherchons des solutions rapides à nos problèmes urgents. La personne qui se présente devant nous et qui nous promet de rechercher des solutions rapides et qui nous promet un futur meilleur devient souvent notre leader. Malheureusement, certains se mettent à accuser d'autres groupes d'être à la base de nos problèmes vitaux. Ces accusations sont fausses et crée plus de mal et de douleur que de bien. En revanche, des bons leaders prennent l'initiative de regrouper tous les groupes communautaires, les protagonistes inclus, et se demandent et nous demandent quels sont tous les facteurs qui causent les problèmes, quelles sont les responsabilités de nos décideurs, quelles sont celles du système judiciaire et quelles sont nos responsabilités à nous, citoyens congolais. Ensemble, une fois que nous avons identifié les causes complexes des problèmes, alors nous pouvons identifier des pistes de solutions et des projets prospères à nous tous. Par exemple, au Burundi, l'association Amaro Niterambere, qui signifie paix et développement, regroupe 35 femmes, dont 8 ex-combattantes d'ethnies diverses. Cette association est un cadre propice à un travail commun productif qui leur permet aussi de tisser des liens plus solides entre elles. Les objectifs ont été atteints puisque cet été, elles ont récolté 8 tonnes de riz. Leur solidarité a donné envie à d'autres femmes de développer des projets similaires. Aujourd'hui, on en dénombre environ 250 associations œuvrant selon ce même modèle de solidarité et de coopération multiculturelle. Nous devons être solidaires dans la recherche des solutions à nos problèmes en nous souvenant un ami c'est une route, un ennemi c'est un mur.
Parce que nous devons être solidaires dans la recherche des solutions, c'est cela l'idéal.
Oui, un idéal très, très fort parce que dans la vie, en fait, ce qui importe, comme Marcel l'a dit, c'est d'avoir un pont pour aller vers les autres plutôt qu'un mur pour s'isoler. Et ce qui est très déterminant ici, c'est que les citoyens, les individus doivent savoir se remettre en question en développant un sens, un courage moral, en développant un sens critique de tout ce qu'on leur propose comme solution, parce que finalement dans la société, chacun de nous peut aussi être un leader.
François Élika, nous rappelons que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été des nôtres dans cette chronique La Benevolentia et à très bientôt.